RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Après la finale avant la lettre qui a donc opposé ce week-end Toulouse à La Rochelle, place désormais la finale logique et ce match qui va voir s'affronter vendredi soir à Nice le vainqueur de la saison régulière et le champion sortant, Castres versus Toulouse. Le problème, c'est que c'est toujours pas une finale, mais une demi, qui plus est un derby entre deux équipes que tout oppose. Alors faites vos jeux, rien ne va plus. Le CO peut-il accrocher le grand stade toulousain à son palmarès et s'ouvrir les portes du Stade de France? On ouvre le débat dans un instant. Quant à la deuxième demi-finale, elle oppose le lendemain, toujours à Nice, capitale éphémère du rugby, Montpellier à l'UBB. Les Bordelais et leurs leaders qui ont riposté aux attaques de leur manager en sortant un grand match pour éliminer le Racing. Drôle d'ambiance tout de même en Gironde. La fâcherie va-t-elle se prolonger ou s'atténuer avec le succès? Là aussi, vous saurez tout. Et pour évoquer cette demi-finale du top 14, la bombe des poteaux constituée aujourd'hui de Richard Hout. Et oui, là, on passe aux choses sérieuses quand même. On change de braquet. Denis à la trapinette et Richard au micro. Monsieur Dourt, comment ça va?
Ça va très bien, ça change de catégorie.
Ah bah c'est pareil.
Et la vie est belle, la balle à l'aile.
Exactement. Et là aussi, on change de catégorie, puisque après Manu Massica, on prend aujourd'hui Léo Faure du Midi Olympique pour représenter le jaune. Il est avec nous. Salut Léo.
Salut. Et hiérarchiquement, on descend d'un cran, moi, par contre.
Oui, mais au niveau du talent, au niveau du talent, on a pris...
Tu m'as dit que t'allais passer devant lui l'autre fois au téléphone.
Bah ouais, bientôt. C'est assumé.
Et puis un garçon qui, ce week-end, a déshérité son fiston. Mais oui, voyez-vous. Coupable de supporterisme du Stade toulousain. Et ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour Wilfried Templier, un Rochelet malheureux. Ça va,
salut.
Wilfried ?
Il est toujours dans le placard, d'ailleurs. Il faut que vous ayez voir ce qu'il donne. 48 heures plus tard. J'ai amené un peu d'eau, quand même. Il fait un peu chaud.
Ça doit être terrible, comme ça. Quand tu te balades dans la maison le lendemain d'une défaite avec le petit qui se balade avec le maillot et le drapeau du Stade toulousain.
Ah, puis à cet âge-là, c'est pas du tout vindicatif, en plus.
Ouais, il est aussi charbroir que toi, ou pas ?
Il s'accroche.
Les chiens ne font pas des chats. La Rochelle, qui, tout comme le Racing, a donc subi la loi des plus forts. Et ce week-end, les plus costauds, c'était Toulouse et Bordeaux.
Lucu va jouer sur les extérieurs avec Moefana. Il y a 4 contre 4 à jouer. Moefana pour Cordero. Il va y aller. Essai de Santi Cordero. Mais quelle inspiration de Maxime Lucu.
Fouissac qui remet pour Arnold. Ça y est, ça s'enflamme un peu. Il a percé. Énorme percé d'Arnold. Arnold, regarde Arnold sur l'extérieur. La passe pour Dupont. Dupont, accroché intérieur. Accroché extérieur. C'est d'Antoine Dupont.
La mêlée pour le coup, elle est stable avec la poussée de Verne. Et ils vont progresser. Ils ont un avantage en cours avec le cul qui sort ce ballon pour Moefana. Moefana qui passe les bras pour Seoutani. Et c'est de l'Union Bordeaux.
Oh, dans le fond, pour El Tabac. El Tabac. L'essai de Romain El Tabac qui va conclure ce barrage.
Qui domine en mêlée et du coup il y a un bon ballon avec Seoutani, le coup de pérase pour Romain Burros, il va aller à Burros et c'est de Bordeaux.
Le Stade toulousain est en demi-finale, va jouer Castres et le Stade toulousain s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde ce soir.
L'Union Bordeaux se qualifie pour les demi-finales du top 14 et c'est une fessée que prend le Racing 92.
Voilà, Wilfried Templier, Nicolas Paolorsi aux commentaires, ils nous ont régalés, ils se sont régalés, parce que franchement, les matchs de barrage et les matchs de phase finale de top 14 ne sont pas toujours du même niveau que celui qu'on a vu ce week-end, messieurs. Hein.
Non, mais ça c'est sûr, le problème c'est que le match de Bordeaux a eu du mal à démarrer, parce que stratégiquement, les deux équipes avaient décidé d'occuper le terrain, alors que Toulouse-La Rochelle, ça a démarré de suite.
Ouais. On évoquera tout à l'heure la perf de l'UBB. On va d'abord revenir donc sur celle de Toulouse, du grand, de l'éternel Stade toulousain. Certains doutaient de la faculté des Toulousains à rebondir après leur élimination européenne. Fallait pas douter, Wilfried. Toi, qui étais le premier à douter quand même, hein.
Oh non, pas du tout en plus. Non mais pas du tout. Enfin c'est des carnivores. C'est voilà, ouais. Dès que ça sent l'odeur du sang. Et puis voilà, ils ont perdu leur titre européen. Comment ça, le champion d'Europe vient chez nous pour nous défier en phase finale? Bah voilà, il leur fallait que ça, hein, aux Toulousains. Et puis ils sont pas pourris aussi, on va dire. On va en parler, mais voilà, on s'en. C'est vrai que je crois que la semaine dernière on le disait. Tiens, on parle pas beaucoup de Dupont. Fais attention quand même. Ce qui nous a sorti, on va en parler aussi. Ouais, Toulouse, effectivement. Tenant du titre du top 14 sur ces deux dernières saisons, enfin 3 parce qu'il y a eu le Covid.
Toulouse a toujours été une très bonne équipe du mois de juin. Hein. que ce soit depuis 20 ans. Ça a toujours été une équipe de phase finale. Ils savent se resserrer à ce moment-là. Tout est oublié. Et puis, ils ont surtout des joueurs de qualité. Quoi. C'est ça qui fait la différence dans les, dans les grands matchs. On l'a vu sur les deux barrages. Ce sont les joueurs les plus talentueux qui font la différence. Et ça, c'est un point fort. On appelle ça des match winners. Et, et chaque équipe, pour l'instant, en a.
Enfin, ouais, et puis, la stat de phase finale, 29 finales, 21 boucliers quand même. Donc, c'est... Voilà,
c'est, c'est pas les mêmes stats que Clermont, Léon, Léo. Hein,
je vois pas du tout.
Tu l'as pas perdu.
21 boucliers de plus que moi.
Non, mais après, Wilfried, il l'a dit, l'odeur du sang, c'est quelque chose qui est quand même terrible chez eux. Ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait beaucoup de La Rochelle parce que finale de Coupe d'Europe. Et puis, ils ont impressionné contre Leinster, faut le dire. Et puis, nous, les premiers, on voyait La Rochelle très fort, très dur physiquement et capable de les concasser. Et ils s'en servent de tout ça. La notion de suprématie, elle est importante pour eux. Et c'est sûr qu'ils ont dû s'en servir de tout et de tous ceux qui voyaient les Rochelais venir faire le coup. Ils s'en sont nourris et ils leur ont mis une classe d'écart.
Dans le combat, on s'attendait, tout le monde s'attendait à ce que les Rochelais ne fassent qu'une bouchée des Toulousains parce qu'ils avaient fait face au Leinster. Mais là, les Toulousains touchés dans leur orgueil, Richard, ont vraiment été énormes dans ce match.
Ouais, mais pour moi, les Rochelais se sont peut-être un petit peu trompés stratégiquement. Ils ont voulu jouer, ils ont voulu écarter les ballons plutôt que jouer sur leur point fort. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait contre le Leinster. Contre le Leinster, ils ont cadenassé cette équipe irlandaise et puis à la fin, ils les ont concassés. Et là, ils ont voulu écarter les ballons, ils ont voulu jouer à la Toulousaine et ils se sont fait contrer de suite. Bon, après, forcément, Antoine Dupont en deux actions, c'était quasiment fini. Quoi. Au bout d'un quart d'heure, il y avait deux essais, ça faisait 12-0, puis 15. Et encore, Ramos rate une ou deux pénalités. Donc, ouais, les Rochelais, ils ont été dominés par une équipe qui était revancharde et avec des joueurs de talent qui font la différence.
Ouais. Et c'est ça qui est dingue, Christophe, pour La Rochelle, c'est qu'on ne voit jamais le meilleur visage de. Alors, c'est
face à Toulouse.
Richard Benoît, face à Toulouse, on ne voit jamais le meilleur visage des Rochelais, ce qui peut être.
On en parlait dans les grandes gueules ce week-end. Le phénomène de bête noire, il existe vraiment pour La Rochelle face à Toulouse. Ils n'arrivent pas à les battre, ils font un complexe.
C'est pas psychologique. C'est pas psychologique. Enfin, il y a des raisons factuelles à un moment, non ?
Ouais, mais bon, peut-être qu'ils se sont. Moi, je dis, ils se sont trompés un peu stratégiquement.
Oui, mais les fautes de main, Richard, les en avant, les fautes comme ça,
c'est peut-être les soirées sur le vieux port. je sais pas. C'est on a vu les fautes de main. On en a vu le Racing contre Bordeaux. Il y en a eu pas mal pendant 20 minutes des deux côtés. Hein. Et ce que n'a pas fait Toulouse. Après, attention à La Rochelle, quoi. L'année prochaine, ça va être encore plus costaud. Ah oui,
et recrutement, et Rochelais.
On disait les Rochelais en manque de fraîcheur. Moi, j'ai pas trouvé. Hein, ils ont été étouffés par les Toulousains parce que Grégory Aldrit, il a été au niveau d'Antoine Dupont, quoi, à son poste. Il était partout. Il a marqué un essai avec quatre mecs sur le dos. Voilà, les Rochelais se sont juste un peu trompés stratégiquement, me semble-t-il, un peu. Mm. Pas assez d'occupation pression. Ils ont voulu porter le ballon et ça. Ça s'est retourné contre eux.
Mais c'est ce qu'ils avaient fait en finale de Coupe d'Europe contre le Leinster, où ils avaient cherché à toucher les couloirs assez vite, reprendre le centre du terrain derrière, ils avaient porté le ballon pour le coup. Et
ils avaient cogné
contre eux. Ils avaient cogné fort.
Ouais.
Avec donc, vous l'avez dit, un Antoine Dupont exceptionnel. On ne parlait pas beaucoup de lui ces derniers temps. Il s'est rappelé un autre bon souvenir. Et c'est vrai que quand il évolue à ce niveau-là, le stade est très difficile à battre. Antoine Dupont, qui retrouvera donc vendredi prochain un club qu'il connaît bien, pour y avoir fait ses débuts professionnels en 2014, y avoir évolué durant trois saisons. Le Castres Olympique, vainqueur de la saison régulière, mais pas forcément favori pour cette demi-finale. Mais ça, on va en discuter tout de suite avec David Carrère, l'un des entraîneurs du Castres Olympique est avec nous entre les poteaux. Bonjour David.
Bonjour à tous. Salut Richard.
Salut David.
Salut David.
David.
Tu dois être triste ce week-end parce que David est quand même de Mont-de-Marsan.
Aïe. C'est le Dacois qui chambre le Montois, c'est ça.
Je suis obligé de le placer, ça.
Je te laisse pas faire, David.
Allez, Landais entre eux, ils sont terribles. Hein. Ça, c'est cette guéguerre qui date des.
C'est pas des grandes bouches, hein, c'est bien.
Ça date de quand cette histoire entre Mont-de-Marsan et Dax? Les années 50 avant même.
On réglera ça à pas
de. Ça date depuis que les Montois, ils ont été champions contre l'US Dax et depuis voilà c'est voilà. Mais maintenant moi je suis à Bayonne donc j'ai Biarritz Bayonne aussi à gérer. C'est pas mal aussi.
Bon, vous réglerez ça au fait de la Madeleine, messieurs, on vous laissera.
Je vais pas, je suis interdit.
Ah, t'es interdit. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, Richard?
Non, ouais.
Ah, j'aimerais bien savoir génétique. Ce qui s'est passé.
C'est génétique. C'est mon papa qui m'interdit.
Alors David, on le disait, Dupont a débuté chez les pros à 15. Vous étiez déjà dans la place à l'époque, je crois, hein?
Oui, j'y étais. Il a commencé, il n'avait pas 18 ans. Premier match contre les Harlequins, il était rentré 20 minutes. Il avait fait la misère à Danny Kerr. Déjà, on savait que c'était un très, très gros potentiel à l'époque.
On l'a senti très, très tôt quand même que ça, celui-là, ça allait être une pépite. Mais bon, il y en a souvent qui sont très forts à 16-17 ans et qui ont du mal à percer derrière au plus haut niveau. Ça n'a pas été son cas.
Non, pas du tout. Mais déjà, quand même, il y avait quelques prémices pour ceux qui connaissent un peu le niveau des jeunes joueurs maintenant. Lui était déjà très précoce, très en avance. On savait déjà qu'il, comme on dit, il sent le rugby comme pas d'autre.
Ouais, il était tellement précoce qu'il n'était même pas dans l'histoire de la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec vous.
Non, mais il avait. Son temps était passé. Il était venu. Il était l'année d'avant, je crois. Il n'avait pas été. Ils avaient une très très grosse génération, ils n'avaient pas réussi à performer, battu par l'Argentine, je crois, en demi-finale. Après les générations 98-99, il y avait pas mal de très très bons joueurs aussi.
Ah ouais, on en voit quelques-uns sur les terrains et en équipe de France actuellement, effectivement. Quand on évolue ou qu'on entraîne une équipe opposée à celle de Dupont, est-ce qu'on s'inquiète à l'avance, David ?
On s'inquiète, on sait très bien. On sait très bien où on va. Maintenant, que ça aurait été Toulouse et La Rochelle, ça aurait été un match déjà très très dur. On sait où on met les pieds, on sait à quoi s'attendre. On sait que ces deux équipes étaient armées pour être champion de France et champion d'Europe. L'une a réussi, l'autre veut le réussir. Nous, on est là et on sait très bien que ce sera un match très très dur.
Wilfried, peut-être une question pour David.
On va pas parler de Dupont tout le temps, hein, David, mais c'est vrai que faut le prendre en compte en face. Comment vous avez un joueur aussi que le grand public connaît peut-être pas, mais qui a fait beaucoup de progrès, qui est très bon, c'est Jérémy Fernandez à la mêlée. Est-ce que justement il va se préparer particulièrement alors vous n'allez pas nous dévoiler si c'est lui qui va être titulaire ou Santiago Arata, mais bon, a priori ça a été le titulaire le plus souvent dans l'année. Est-ce qu'on manage aussi ces numéros 9 avant ce match ?
Ouais, quand tu joues Antoine Dupont, tu sais quoi qu'il arrive, qu'il va falloir évidemment le surveiller. Sur deux actions, il est capable de faire basculer un match lui tout seul. Il est constant pendant 80 minutes. Mais après, se focaliser uniquement sur lui, ça serait oublier tous les très grands joueurs qui sont autour de lui et qui sont capables aussi de faire des différences. Mais c'est vrai que c'est le facteur X du rugby français, voire mondial. Quoi.
Ouais. Richard, Léo, vous avez une question à poser à David. Ouais. Vous avez envie de la...
Ouais, Léo. C'est assez paradoxal parce que vous terminez premier de la saison régulière et pourtant on a encore tendance à vous voir outsider. Ça vous va bien comme position ? Parce que des fois j'ai l'impression que Castres s'en nourrit beaucoup de ça, que ça vous va très bien qu'on vous attende pas trop.
Je sais pas, mais après on le cultive pas, ça. C'est nous, c'est notre façon d'être. Alors oui, on joue pas comme le Stade Toulousain ou comme le Stade Rochelais. On a un rugby qu'on essaie de faire progresser de semaine en semaine. Il est peut-être moins flamboyant que les autres. Comme je disais, on essaie de travailler justement pour le rendre plus complet. Après, on ne recherche ni la lumière, on ne la fuit pas non plus, mais c'est comme ça. Et puis, vous savez, quand vous regardez les effectifs des autres équipes, on n'a pas la chance d'avoir autant d'internationaux que les autres, donc il faut qu'on travaille deux fois plus.
Mm-hmm. Richard, ou Léo, encore,
David, te connaissant et connaissant aussi Pierre-Henri, que j'apprécie par ailleurs, vous avez dû préparer quelque chose quand même, parce qu'on parle d'Antoine Dupont, on parle d'Entamac, on parle de tous ces joueurs du Stade Toulousain, mais il y a quand même une culture à Castres peut-être un peu plus collective qui fait que au lieu de se focaliser sur les points forts, il va bien falloir y faire attention, mais vous allez vous focaliser sur votre jeu, sur votre façon de jouer.
Bien sûr, non, bien sûr, Richard, on a énormément bossé dans notre contenu, qu'on a forcément adapté à l'adversaire. Donc forcément il y a quelques stratégies particulières, il y a quelque chose qui a été pas mal de choses qui ont été mises en place, mais tu vas pas tout bouleverser non plus en une semaine. Et au contraire, il faut s'appuyer sur les choses que tu sais faire et les faire encore mieux avec encore plus de, encore plus de précision, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et, voilà.
Est-ce que vous craignez pas, parce que c'est la première fois, le fait de ne pas avoir joué en barrage? C'est la première fois que ça arrive au CO de ne pas passer par les barrages et d'avoir justement une semaine de repos avant d'affronter.
Trois matchs disputés en 7 semaines seulement, je crois. Pour le
ouais, ça a été la réflexion de mon président juste après le match de Pau. Je ne sais pas s'il y a une vérité, en fait. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas habitués à ça, mais ça nous permet aussi de... Ça nous a permis de régénérer, de refaire du gaz, de refaire pas mal d'entraînement, de réglage, et aussi de pas avoir de blessés. Avoir un match supplémentaire, c'est aussi de prendre le risque de se blesser nos joueurs majeurs. Donc, ça leur a permis de bien travailler tout en ayant des plages de récup qui sont importantes et de faire du gaz. Donc, je ne sais pas si c'est la vérité par rapport à ça.
Ouais, de toute façon, tu connais trop ce milieu et celui des journalistes pour savoir que la vérité, ça sera après le match. C'est-à-dire que si le CO perd, c'est parce qu'ils n'auront pas joué de barrage.
Et des consultants qui posent les mêmes questions que les journalistes. Hein.
Et s'ils gagnent, c'est parce qu'ils auront fait de la fraîcheur. Donc, mais c'est toujours après la vérité qu'on a.
David, il y a peut-être... tu parlais de stratégie, tu ne vas pas nous la dévoiler non plus, comme je parlais des demi-mêlées titulaires ou pas. C'est vrai qu'on a vu les Toulousains 13 au point sur le jeu au sol contre les Rochelais, parce que souvent quand les Toulousains ont eu des problèmes, c'est qu'on leur posait des problèmes sur ce jeu au sol. Il y a des choses de cibler assez difficiles, parce que je sais que tu vas rien me dire, mais comment on peut battre Toulouse? Là aussi tu vas me ricaner au nez, mais
comment on peut battre Toulouse, c'est une grande question.
Non, mais David, Hugo Mola disait que c'était une question d'énergie, les phases finales aussi, c'est une question d'énergie, c'est celui qui met la pression à l'autre et voilà, qui a le plus d'énergie.
Ouais, de l'énergie, il faut qu'elle soit positive, l'énergie, il faut vraiment que les garçons soient pleins d'enthousiasme, envie de rentrer dans cette partie à 200 à l'heure et jamais baisser le pied. C'est aussi ça, mais c'est aussi une question de mental, quoi. De mental, c'est vrai que quand on est frais mentalement aussi, on a envie de s'accrocher encore plus, de faire encore plus d'efforts, sachant que c'est un match éliminatoire, hein. Donc forcément il n'y aura pas de points bonus ou de match nul, hein. C'est un match à élimination directe, donc la fraîcheur mentale et physique va être capitale. Ouais.
David, Toulouse, c'est un peu l'antithèse de Castres. Hein. On parle souvent de la petite sous-préfecture opposée à la grande capitale régionale. Même si les deux villes sont géographiquement proches. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fasse plus plaisir à un castré que de battre le Stade toulousain, David Darrigard?
Être champion de France.
Ah ouais. Mais en battant Toulouse alors.
Mais non, mais Toulouse ou un autre. Toulouse ou un autre. Non, c'est être champion. Vous savez, c'est un club qui a des valeurs. C'est un club dans lequel on travaille une certaine sérénité, mais qui ne manque pas d'ambition pour autant. On avait l'ambition de se qualifier pour être dans les 6. Aujourd'hui, on est en demi. On a l'ambition d'aller en finale. Je pense que c'est légitime au vu de la saison et on va essayer de croquer là, de la rappeler dedans, quoi.
Et comment tu sens ton groupe, David, justement, parce que certains vont peut-être découvrir aussi ces phases finales, mais il y a une demi, tout est génial, tout ce qui arrive là, avec les demi-finales au même endroit, ce stade de Nice, comment ils sont les joueurs, comment tu les ressens?
Il y a quand même quelques joueurs qui en ont joué oui. Déjà, donc c'est important pour notre groupe et tous ceux qui n'ont pas connu ça. Donc, cette expérience-là va aussi servir à l'intérieur pour essayer de gérer au mieux cette pression-là. Après, les garçons sont... j'ai envie de te dire que, comme d'hab, voilà, le Vézou, c'est une plaine ouverte. Il y a des gosses qui viennent. Il y a les femmes des joueurs avec les gosses qui pique-niquent à côté de l'entraînement. Ça nous change pas. Après, une fois que l'entraînement a commencé, voilà, les garçons sont d'un sérieux extrême et d'une grande concentration. Pour l'instant, c'est la pression n'est pas encore à son maximum, quoi.
C'est magnifique ces images là et c'est le rugby qu'on aime aussi et c'est sympa de vous voir à ce niveau là évidemment après une saison incroyable. Alors Hugo Mola connaît bien Castres, hein, puisqu'il a été joueur et entraîneur, et pour lui Castres est loin d'être l'élève du fond de la classe, hein. On va l'écouter tout de suite.
Il y a longtemps que j'en suis parti. On ne peut pas dire que quand même j'y ai passé des moments flamboyants. C'est le premier en termes de caractère et d'état d'esprit. C'est toujours une équipe qui est là, hein, et je trouve que son niveau de reconnaissance est toujours relatif très certainement à une ville de 80 000 habitants. Mais quand je vois les caisses qu'on fait sur des 9e, 10e du championnat, 4 premiers, on n'en fait pas des caisses. On n'en fait pas beaucoup. Et ils méritent sincèrement bien plus d'égards que ce que parfois on parle d'eux. Ça fait 3 semaines, enfin ça fait un mois et demi. Ils ont eu 2-3 matchs à jouer avec Biarritz, Perpignan et Pau. Donc ils sont effectifs à plein. Nous, on a encore perdu des joueurs. Il faudra un très très bon Satouzin.
Il vous caresse dans le sens du poil, Hugo Moller, hein, David.
Non, c'est gentil. Non,
il a, quelque part, il a raison. Moi, je suis désolé.
Oh, il a ajouté 40 000 habitants à Castres, quand même.
Mais... Ouais, il en a, oui, il a rajouté un peu. Mais c'est vrai qu'on a plus parlé de Toulon, de Clermont, qui n'est pas qualifié, que de Castres, qui était premier, quoi.
C'est pas faux.
Alors, Castres, ils ont joué leur saison. Moi, je ne les voyais pas aussi bien, il y a deux mois. Ben.
Premier,
et le match qui a fait la différence, et David ne sera pas là pour me contredire, ben, c'est d'avoir battu le Stade Toulousain. Ce match qui était importantissime pour le club, et ça a lancé sur le fait de finir premier, quoi. Parce qu'à l'époque, ce match perdu à domicile contre le Stade Toulousain serait mis Castres dans la même situation que Clermont ou que Lyon.
Oui, t'as raison Richard, c'est un match qui est un peu charnière, hein, qui est un peu charnière la saison. Alors, j'ai envie de te dire, il y en a eu plein d'autres à domicile, oui. Mais celui-là, il était charnière parce que Toulouse est venu aussi avec sa grosse équipe, avec tous ses internationaux, et qu'on a réussi à faire un front et à gagner ce match. Après, sincèrement, Charles, tu connais, on n'était pas programmé pour être premier. C'est...
Non.
Ouais,
mais
voilà,
pour être dans les phases finales, oui.
Oui, pour être dans les phases finales, c'est notre objectif année, d'y être, de batailler fort pour y être. Bon, il s'avère qu'on a terminé premier parce que. Oui, il y a eu d'autres équipes qui ont flanché, mais nous, on n'a pas flanché, du coup. Donc, on a continué sur notre rythme. Et finalement, on a atteint cette première place qui nous rend fiers. Hein. On va pas se cacher, ça nous rend fiers d'être premier. C'est pas anodin qu'on veut casser finir premier du championnat avec tous les mastodontes qu'il y a, avec des effectifs pléthoriques et des budgets très hauts. Donc, on est fiers de ça. C'était un peu inattendu, mais on est fiers de ça. Et puis se qualifier pour les deux finales, c'est toujours un événement pour le club et pour la ville. Quoi.
Ouais. Juste, j'ai une question sur. On a beaucoup parlé de Dupont, mais vous avez quelqu'un qui s'appelle Rory Cocotte chez vous, qui est toujours dans vos rangs. Alors, on sait qu'il joue plus beaucoup et qu'il joue moins. Il a connu 2013 et 2018. Lui, vous en servez dans la semaine sur les discours, sur peut-être pour rassurer aussi ses coéquipiers. Vous l'investissez vachement là, sur ce côté-là.
Il est avec nous, il est investi, il est investi à 200%, hein, on le connaît.
Ouais.
C'est un garçon qui lâche pas l'affaire. Hein.
Il lâche pas facilement.
Donc, aux entraînements, je peux vous assurer qu'il est bien présent et qui fait bosser tout le monde. Donc il est impliqué à 200%. Ouais.
David, je parlais de tes joueurs et toi. Comment tu abordes ces phases finales? Il y a eu 2014, la phase finale et la finale qu'on a perdu contre Toulon. Ouais. Tu as vécu l'aventure avec le U20. Voilà, ouais. Tu as pris aussi peut-être un peu d'épaisseur, de maturité, de l'âge comme tout le monde. Comment tu abordes ça?
Ouais, avec plus de recul qu'il y a 10 ans, forcément, mais en essayant, tu sais, avec l'expérience, tu apprends aussi à pas lâcher d'énergie là où c'est pas nécessaire. Il faut aller dans les points précis, il faut pas s'éparpiller, essayer de travailler sur les détails maintenant avec un peu plus de recul et en essayant d'apporter aussi l'expérience que j'ai par rapport à ces événements là, de pas jouer le match avant par exemple, d'essayer d'arriver avec un maximum de fraîcheur mentale, de sérénité et de confiance.
Merci David, on va vous souhaiter un bon match évidemment. Castres-Toulouse, ce sera vendredi à 21h, première demi-finale du top 14 à suivre évidemment sur RMC. Merci David et bonne préparation.
Merci.
Salut.
Ciao.
À très bientôt. Et puis le lendemain, l'autre demi-finale opposera donc l'UBB à Montpellier. Là aussi, la logique du classement de la saison régulière a été respectée puisque Montpellier deuxième affrontera l'UBB qui a terminé troisième. Bordeaux-Bègle et ses leaders qui ont répondu de la plus belle des manières, enfin je ne sais pas si la plus belle, en tous les cas une sacrée manière, aux attaques du début de semaine de leur manager qui reprochait notamment aux Woki et autres Jalibert leur quasi-absence lors du match contre Perpignan. Là, on les a vus pendant le match et puis on les a surtout entendus à l'issue de la rencontre. Écoutez par exemple ce que disait Mathieu Jalibert après le match au micro de nos confrères de Canal+.
On voulait aller directement en demi-finale, on s'est raté dans l'état d'esprit à Perpignan. Et cette semaine, oui, ça a été tendu. Ben, vous l'avez vu, des déclarations dans la presse de notre manager, des joueurs ciblés. J'ai juste envie de dire que nous, on joue pas pour Christophe, on est juste en mission pour les joueurs. Donc voilà, on a pris les choses en main. Voilà, la meilleure réponse qu'on pouvait donner, c'est ce qu'on a fait ce soir. Et aujourd'hui, on a fait un grand match, mais voilà, il faut basculer vite sur Montpellier parce qu'on a envie de passer le tour suivant.
On ne joue pas pour lui, nous dit Jalibert, et on lui a fait fermer sa grande bouche. Ah, c'est Cameron Wauquiez. Alors, il l'a pas dit, mais le geste après son essai où il se met la main devant la bouche est assez explicite. Et ça n'a pas échappé à son coach, Christophe Furios, qui en a donc rajouté une couche. Hein, c'est pas fini, cette histoire.
Il continue comme ça, qu'il marque des essais. J'aurais préféré qu'il le fasse à Perpignan. Sauf qu'à Perpignan, il l'a pas fait. Voilà, donc moi, les histoires après, c'est de l'enfumage pour moi. Faire déjà, le patron, c'est moi. Personne d'autre. Et ceux qui veulent pas me suivre, ils restent de côté. C'est pas un problème. Moi, je sais où je veux aller à Bordeaux. Et si jamais ça va pas, je partirai de Bordeaux. J'ai pas de problème. Je suis très à l'aise. Très, très à l'aise. Très à l'aise.
Oh, ambiance quand même. C'est incroyable. Hein. On pensait que peut-être la victoire allait calmer tout ça, à planir les différences. Ça a pas l'air d'être vraiment le cas, hein, messieurs.
Ouais, bah alors ça peut peut-être tenir sur le côté électrique sur les phases finales, sur les mois qui arrivent, ça reste à démontrer parce que là quand même on sent le fossé entre les joueurs et Christophe Furios. Alors moi je veux bien croire que Christophe Furios peut les user parce qu'il a poussé de nombreux coups de gueule cette année, mais les gars, faire chute à se boucher les oreilles, bah, aller chercher le bouclier beaucoup, parce qu'on n'a rien gagné à l'UBB depuis des années.
Moi je vais pas suivre derrière, ouais.
Pas trop bataille, enfin je suis pas très fan.
C'est difficile parce qu'on n'est pas dans le oui, on n'est pas dans le secret du vestiaire entre eux, mais
non. Mais quand même, c'est vrai que Christophe, il en a fait toute la saison. Je suis pas trop fan de ses conférences de presse. Mais là, franchement, il a raison, quoi. Franchement, on a le droit de pousser ses joueurs parce que c'était vraiment une déception de pas être en demi-finale et c'était un risque de perdre contre le Racing. Mm. Et après, Mathieu Jalibert et Cameron Wauquiez. 23 ans chacun, à un moment donné, il y a un respect à avoir. Alors, ce sont de très grands joueurs, mais devant 27 000 personnes qui sont derrière toi, de faire chute et de boucher. Moi, je l'ai fait chute, mais parce que j'étais sifflé par le public adverse, c'était à la maison. C'est vraiment un signe contre son manager. Je trouve pas ça cool, quoi. À un moment donné, oui, on s'explique dans les vestiaires, mais on ne se sert pas ni des réseaux sociaux, ni de quoi que ce soit, ni du public, ni de la télé, pour faire passer un message. Quand on a des trucs à dire, on le dit à son entraîneur. Si l'entraîneur nous fait chier, on lui dit. Mais voilà. Et puis la poignée de main de Mathieu Jalibert, quand il sort, il ne regarde même pas Christophe Furios.
Ouais.
C'est moyen, quoi. Franchement, c'est moyen.
Et le problème, c'est que quand Mathieu Jalibert ou Cameron Wauquiez ont été excellents, il me semble
que... Oui, ils ont été très bons, mais ça n'enlève rien à leur performance.
Dans d'autres moments dans la saison, ils ont été excellents, Christophe Furios l'a dit, en les nommant. À Perpignan, il faut dire la vérité, il y a des comportements qui étaient indignes, quoi.
Donc,
il le dit aussi en les nommant. Il faut accepter les deux revers de la médaille à un moment. C'est un peu facile de vouloir que les louanges. Donc voilà, ils se sont fait taper dessus, ils répondent. Je rejoins un peu Wilfried, je pense que sur des phases finales, ça peut tenir parce qu'il y a quand même un joli truc à aller chercher au bout. Et après, il faudra quand même qu'il y ait une remise à plat entre eux parce que ça peut pas durer des mois non plus, quoi.
Oui, puis ça peut pas, effectivement. Là, ça a marché ce coup-ci. Ça peut-être encore marcher face à Montpellier, mais c'est pas sûr que ça puisse continuer
même
comme ça
finale,
longtemps.
Voilà.
Hein. Même, il y a encore deux matchs. C'est long, deux matchs. Il y a les semaines avant les matchs. Hein, l'ambiance en l'environnement, ça doit être quelque chose.
Après,
quand même.
On en a vu
entre
dans l'histoire.
Nous, les amis, à mon avis, Christophe Furios, il va régler le problème rapidement. Il va crever l'abcès, c'est obligé. Sinon, ça pourra pas fonctionner. Il y aura quelque chose qui marchera pas sur des matchs aussi importants qu'une demi-finale ou qu'une finale si ça doit arriver.
Après Richard, t'as joué des matchs où il y avait le feu en interne ou dans le groupe ou contre l'entraîneur.
Oui, mais ça a été réglé.
Ça allait au bout quand même.
Je vais vous donner un exemple. En 99,
voilà, je pensais à ça.
Il y avait le bordel. Vraiment, il y avait le bordel. Ça a été réglé entre nous avant le dernier match de poule. Il y a eu pas des insultes, mais presque.
Mais pendant les matchs, tu faisais pas, tu fermais pas sa bouche à Scrella et à Villepreux quand même.
Non, jamais. Jamais. Et pourtant.
Non, mais ça, voilà, c'est ça. C'est les gars, assumez maintenant. T'as fait chute, boucher les oreilles. Ah, ben c'est pas qu'un match qu'il faut. C'est pas qu'une canne essai comme ça.
Puis
de temps
même,
en temps,
tu fais
une grosse phase finale.
Tu fais pas chute à ton manager ou par respect par ton club, par respect pour la hiérarchie de ton club. Parce qu'il faut savoir que les joueurs ne sont que joueurs. Le manager, il est que manager. Et il y a le président qui préside, quoi. Chacun à sa place. Ouais. C'est comme si Christophe Furios, il se tournait vers la tribune et il faisait. Un bras d'honneur à Laurent Marty, quoi. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas.
Ouais, ils ont 23
pour
ans.
Pour moi, ça n'existe pas. Après, peut-être que je suis un peu l'ancienne, mais je crois que ça fait partie des valeurs que je véhicule et et de l'éducation que j'ai eue. Et je crois que oui. Tout talent qu'on a dans le rugby, je ne vois pas un Antoine Dupont ou un Romain Tamac ou des mecs comme mm-hmm. ça se tourner vers Hugo Mola et leur faire
Christophe,
chute,
tu l'as dit, ils sont jeunes. Ils
surtout,
sont jeunes.
Oui, mais alors, justement, ils sont
Hugo,
jeunes. 23
Hugo Mola,
ans.
Il a tapé sur Antoine Dupont. On a oublié de le dire, ça.
Dans l'hiver ouais.
On a oublié de le dire, ouais. Il a dit, sans le nommer.
Il faut arrêter de faire la couverture de magazine. Ouais,
exactement. Dit, ouais. Et Antoine Dupont lui répond, voilà, écoutez, moi je suis là, je suis encore là, et je serai encore là, et je suis encore là. Et puis voilà, c'est tout. C'est l'éducation. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Ouais. Il faut remettre du respect dans notre sport qui n'en manque pas, et pas ouvrir la porte à des comportements qui ne sont pas dignes de notre sport.
L'éducation, il y a peut-être aussi un phénomène de grosse tête aussi. On rappelle que ces garçons ont 23 ans, qu'ils ont décroché le Grand Chelem cet hiver avec l'équipe de France. Voilà, ils sont portés au nu. Jalibert, tout le monde ne parle que de
Jalibert. Jalibert n'a pas fait le Grand Chelem. Hein.
Jalibert n'a pas fait le Grand Chelem, mais enfin, on parle de lui depuis un an tout le temps. Rappelle-toi, Wilfried, la concurrence avec Ntamack, on considère comme un des plus doués du rugby français, donc peut-être que ça a eu une
Christophe,
une
attention
eux,
à ses comportements je dirais individuels par rapport au groupe France, parce que le groupe France marche très bien et les comportements comme ça
oui. Bah,
je
Fabien Galthié,
il a je sais pas s'il fera ça à Galthié,
mais je suis pas sûr que déjà Galthié ait apprécié qu'il ait fait Urios.
Ouais. Même s'ils ne sont pas très copains avec eux.
Arrête Fabien.
Oui, mais ce n'est pas trop des comportements qu'ils recherchent au niveau équipe de France.
Ouais. Non, exactement. Bon, et Mathieu Jalibert, pardon, il n'y est pas pour l'instant en équipe de France. Il n'y est pas, il y a la Coupe du Monde qui se précise. Alors, il faut qu'il soit exceptionnel comme il a été hier, mais le comportement, ça fait partie aussi d'une sélection dans une Coupe du Monde. Ouais. Mmh.
Alors, pendant que les Bordelais se déchirent, les Montpelliérains, eux, regardent tout cela de haut. Le MHR, dont on parle peu et qui a pourtant réalisé une saison brillante. Montpellier qui se prépare donc tranquillement, l'esprit est serein et qui a déjà réussi sa saison. C'est ce que nous dit Philippe Saint-André.
On a toujours envie d'aller plus loin. Alors après, sincèrement, faire une quart de finale de Champions Cup et de finir deuxième après 26 journées en étant premier pendant 8 ou 9 journées, la saison est bonne déjà. Alors après, par contre, l'appétit vient en mangeant et donc on a envie d'aller plus loin. Et donc on a passé un objectif, on se concentre sur passer un deuxième objectif qui est de tout faire pour monter à Paris.
Tout faire pour monter à Paris, nous dit Philippe. Mais bon, voilà, on est quand même aux antipodes de ce qui se passe à Bordeaux. C'est quoi la meilleure méthode ? La passion bordelaise ou la tranquillité montpelliéraine, messieurs, pour vous ? Léo ?
C'est tellement dur à pronostiquer ces matchs-là.
Bordeaux, quand même.
Attention, hein, Philippe Saint-André, il n'a pas dit que la saison était réussie. Parce que ça veut dire qu'elle est finie.
Il l'a dit
elle
chez
est bonne pour l'instant.
Oui, mais entre ce qu'il vous dit et ce qu'il dit dans le vestiaire.
Ah, voilà, c'est autre chose. Mais
Philippe, bah, t'inquiète, hein, je pense qu'il ne doit pas dire la même chose. Hein.
Non, mais bien sûr qu'ils sont ambitieux, qu'ils veulent plus, c'est évident. Ils ne vont pas se contenter de ça. Et de toute façon, quand tu es en demi-finale, les quatre ont envie d'aller plus haut. Je sais pas, je trouve que la révolte.
Après Bordeaux, ce qu'ils ont vécu, ouais, attention.
Être, ouais. Côté révolte, il peut les servir sur du court terme, comme ça. Sur du moyen terme, ça va être toxique pour eux. Mais c'est ce côté révolte qui les habite actuellement. Ça peut écrire une histoire, je trouve.
Ouais, après Montpellier, ils n'ont pas... pour moi, ils ont un bon collectif, mais ils n'ont pas ces joueurs qui ont l'étincelle qui fait gagner.
Je suis un peu d'accord, ouais.
Et surtout qu'ils en ont pété deux des principaux, des principales vedettes de l'équipe. Hein.
La blessure de Reinhardt est terrible pour eux, quand même. Et oui, c'est un vrai joueur qui fait des différences, et il leur manque un peu ça, je trouve.
Urios qui disait hier, les grands matchs, ces grands matchs, c'est les grands joueurs qui les gagnent. Il va peut-être en manquer quelques-uns.
Ça va être la même configuration que Toulouse et Casse, peut-être de l'autre côté, qu'un gros collectif face aux stars toulousaines, même s'il y a un collectif à Toulouse, mais des facteurs X plus. Quoique, enfin, faut se méfier parce que moi j'ai vu Casse toute l'année. Attention au Kokadji, au Botitou. Si ces mecs-là prennent le truc en main, Nakosi, ben, dans le bon jour, Nakosi, hein, parce que dans un mauvais jour, attention. Mais il peut y avoir match. Je suis plus inquiet, moi, pour la mêlée et la touche Casse 13 sur la conquête directe que j'ai vu aussi toute l'année. Et Toulouse peut être très fort là-dessus. Mais c'est un peu la même configuration de chaque côté.
Toulouse récupère Charles Faumunua, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, quoi.
Ouais, de retour de suspension, ouais. Oui, d'autant qu'ils ont pété le jeune malaise là, qui a pris Skelton sur le.
Il s'est pété sur l'autobus.
Ouais. Bon,
après, il a été courageux quand même.
Félicitations,
il
a bien
y aller. Il s'est envoyé quand même.
Il s'est sacrifié.
Comme un fou. Bon,
Léo, il serait tiré une balle dans la cuisse, il aurait fait le mort sur le terrain.
Bon, on espère en tout cas qu'on va se régaler ce week-end, vendredi soir, donc pour la première demi entre Castres et Toulouse, et le lendemain à la même heure, toujours à Nice, ce match entre Montpellier et l'Union Bordeaux-Bègles. Merci messieurs. Vous serez à Nice, salut. Vous serez tous à Nice, bande de vénards, pour voir ça. Monsieur Templier, il sera. Monsieur Faure, il sera.
Non, je n'y serai pas.
Vous n'y serez pas. Et monsieur Dourte.
Non, bien sûr que non, je travaille.
Il travaille.
En prison, les autres. Travaille. En prison.
On ne le laisse pas passer à partir au fait de la Madeleine, ni sur la promenade des Anglais, c'est comme ça.
Il ne peut pas sortir du 64.
On est de Dax, on n'a pas le droit de passer la barre de Tartas. Tartas, c'est un petit village entre Mont-de-Marsan et Dax. Et à partir de là, moi, j'ai des boutons qui poussent.
Et ton bracelet électronique se met à sonner, surtout. Oh,
je suis sûr qu'on peut trouver d'autres endroits où il est interdit aussi, en France, vous allez voir.
Merci les gars, à lundi prochain pour une autre édition d'Entre les Poteaux. Ciao.